Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et ce soir, on est ensemble jusqu'à 21h, édition spéciale avec toute la rédaction d'Europe 1 pour suivre ensemble les annonces du président de la République. La France se prépare donc à un reconfinement, 4 semaines au moins. Les écoles, les collèges pourraient rester ouverts. Il y aura plus de dérogations pour les branches professionnelles, nous dit-on, mais c'est un nouveau virage qui s'annonce pour notre pays, pour notre quotidien, dans la gestion de cette crise qui décidément n'en finit plus. Alors à quoi faut-il s'attendre précisément? Peut-on encore sauver notre économie, notre modèle social? Car c'est aussi cela l'enjeu. Nous sommes ce soir en mesure de vous donner toutes les mesures et les annonces attendues tout à l'heure par le président de la République. On en parlera dans un instant avec nos invités. Et on vous retrouve, Isabelle Millet, pour le journal. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Et l'histoire qui se répète donc avec ce nouveau confinement qui se profile.
Emmanuel Macron a donc passé la journée à peaufiner son intervention de ce soir 20h.
Ces arbitrages sont attendus et redoutés. Les impératifs sanitaires et la réalité économique sont difficiles à concilier.
Jusqu'au dernier moment, effectivement, le ministre de l'économie a tenté de convaincre le président de ménager les entreprises et les commerces.
L'Europe tout entière confrontée au même dilemme. Partout, on se demande comment on va pouvoir sauver Noël.
L'actualité ce soir, c'est aussi cette étude inédite qui révèle que 4% des liquides contenus dans les cigarettes électroniques contiennent des substances interdites.
Aux États-Unis, J-6, Joe Biden a voté tout à l'heure par anticipation. On sera sur place, bien sûr, comme tous les soirs, avec le journal de campagne de Xavier Yvon.
Et puis la mort d'un amoureux des mots, le linguiste Alain Rey, il avait 92 ans. La tendance météo avec Anissa qui nous a rejoint, le temps redevient sec demain.
Oui, bonne nouvelle, mais attention, le ciel reste gris sur une grande partie de la France. C'est dans le sud que le soleil revient. Et en force, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Le président de la République a donc pris sa décision et il va l'annoncer dans moins d'une heure maintenant.
20h ce soir en direct sur Europe 1, les Français sauront à quoi s'en tenir avec les détails de cette nouvelle étape qui devrait vraisemblablement, on le dit depuis hier, passer par un nouveau confinement.
Un peu moins strict, c'est vrai, a priori que le précédent, avec des exceptions, des dérogations. Les arbitrages ont eu lieu jusqu'au tout dernier moment, nous dit-on. Certains ont d'ailleurs taper du poing sur la table.
Oui, Bruno Le Maire, notamment le ministre de l'économie, estime qu'il ne faut pas tout arrêter parce que la crise économique qui en découlerait pourrait être dramatique. Et il l'a fait savoir donc ce matin lors du Conseil de défense, Emmanuel Dutheil.
Oui, ce sont les médecins et les scientifiques qui ont repris le pouvoir. Voilà ce que l'on dit fataliste dans les couloirs de Bercy. Bruno Le Maire a donc jeté, nous dit-on, ses dernières forces dans la bataille ce matin lors de ce Conseil de défense. Selon les indiscrétions d'un participant, le ministre de l'économie s'est lancé dans une tirade très préparée et très ferme pour militer pour un couvre-feu limité. Il a plaidé notamment pour une ouverture large des commerces. Si tu fermes les petits commerces, c'est la révolution, les mecs sont à bout, résume un de ses proches. Il n'y a pas plus de danger d'aller acheter un livre que son pain ou de se faire coiffer, a tenté de plaider le ministre pour qui ce n'est pas possible de laisser l'économie, je cite, s'écrouler. Ça pourrait avoir des conséquences terribles, résume un de ses proches. Bruno Le Maire en est d'autant plus persuadé qu'il passe son temps là, en ce moment, avec des chefs d'entreprise au téléphone ou avec des responsables de principales branches d'activité. Au minimum, on va voir comment maintenant on peut les aider. On sera au rendez-vous, promettons à Bercy.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Oui, ne partez pas trop loin, Emmanuel, car on vous retrouvera tout à l'heure à partir de 20h30 pour le grand débrief après l'allocution du chef de l'État.
C'est une course de vitesse qui s'engage en tout cas contre la progression exponentielle de l'épidémie. Le président de la République l'a d'ailleurs rappelé en ouverture du Conseil des ministres.
Course de vitesse qui cette fois concerne toute la France, et c'est bien ça la différence avec la première vague.
Oui, ce qui veut dire que les transferts de malades d'une région à l'autre seront beaucoup plus compliqués, même s'il y en a quand même eu aujourd'hui, d'Avignon à Brest, 4 personnes transférées. Ce ne sera bientôt plus possible, sans doute. Le plan blanc vient à son tour d'être déclenché dans le Grand Ouest.
Et parmi les départements les plus touchés, il y a notamment le Rhône et la ville de Lyon, Jean-Luc Boujon, où la situation s'est brusquement dégradée ces derniers jours.
Oui, on a aujourd'hui dans tous les hôpitaux du Rhône 1232 patients Covid pris en charge, alors qu'ils étaient 1250 le 5 avril dernier, date du pic des hospitalisations dans le département. 18 patients de différence seulement. Le 5 avril dernier, il faut se remémorer, on était 3 semaines après le début du confinement. Alors hier, il y a eu 185 nouvelles hospitalisations dans le département. On peut donc craindre que dès ce soir, on dépasse ce fameux pic d'avril. Parmi les établissements où les chiffres explosent, il y a évidemment les hospices civils de Lyon, comme le confirme le professeur Olivier Claris, chef du service de réanimation néonatale.
La situation est vraiment préoccupante et très tendue. Alors aujourd'hui, il y a 201 lits d'occupés, un peu plus de la moitié par des patients atteints du coronavirus. Normalement, notre capacité standard, elle est de 139, qu'on a augmenté pour la troisième fois par palier successif. Donc c'est la troisième augmentation qui permet d'arriver à 201, en sachant qu'au maximum de la crise de mars-avril, on était arrivé à un peu plus de 270. On s'en rapproche indiscutablement.
Voilà, on s'en rapproche, mais on n'y est pas encore et c'est le tout petit motif d'espoir du moment. Le nombre de patients en réanimation reste moins important qu'au printemps, 192 contre 304 à l'échelle du Rhône. Ça veut dire qu'on prend mieux et plus vite en charge les patients, mais cela ne pourra tenir indéfiniment, d'où la nécessité d'une mesure forte. Les soignants plaident évidemment pour un reconfinement.
Jean-Luc Beaujean, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Et la France n'est pas la seule à subir cette deuxième vague de plein fouet.
Oui, toute l'Europe cherche aujourd'hui, c'est vrai, la parade. On vous raconte régulièrement comment nos voisins mettent en place, eux aussi, avec plus ou moins de succès, des couvre-feux ou des confinements partiels.
Isabelle Horry, on vous retrouve, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Et face à cet ennemi commun, Isabelle, partout, on se pose les mêmes questions.
Et oui, partout ailleurs sur le continent, on se demande aussi comment atténuer cette deuxième vague, y compris bien sûr ici à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que des erreurs ont été commises.
Il semble évident que les stratégies de sortie de confinement ont été en partie trop rapides. Les mesures ont été assouplies trop vite.
Bruxelles exhorte donc les Européens à mieux faire front commun, par exemple en misant ensemble sur les tests antigéniques plus rapides. 100 millions d'euros vont être débloqués dans le budget européen, un appel d'offres va être lancé. Il faut s'organiser pour tenir jusqu'au vaccin, ça ne sera pas avant avril pour les premiers et il faudra des mois pour que tout le monde puisse en profiter, rappelle la Commission qui a négocié les contrats au nom des 27. Le virologue belge Peter Piot, conseiller spécial d'Ursula von der Leyen, met déjà en garde contre un relâchement d'ici la fin de l'année.
Est-ce qu'il y aura une trêve? Tout dépendra de l'efficacité des mesures qui sont mises en place maintenant. Une des leçons les plus importantes de l'été, c'est que si on relâche trop, on va vers une troisième vague, avec peut-être encore plus de morts.
Et la présidente von der Leyen avertit aussi de son côté, Noël en Europe sera un Noël différent cette année.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Deuxième confinement en ligne de mire donc, et en France en tout cas, on se souvient que de nombreux urbains avaient fui la ville pour rejoindre la campagne.
Oui, ne pas rester cloîtré pendant des semaines dans de petits appartements. Eh bien l'histoire est peut-être en train de se répéter, en tout cas en ce mercredi soir, il y a en Ile-de-France deux fois plus de bouchons que la normale ce soir.
Oui, on se souvient aussi de la ruée qu'il y avait eu dans les supermarchés à l'annonce du premier confinement.
Les rayons de pâtes, de farine ou d'œufs dévalisés par peur d'une pénurie. Alors
et
cette
de papier
fois
toilette.
Et de papier toilette, bien sûr. Les Français seront-ils plus raisonnables? Maximilien Carlier, vous vous êtes rendu dans un supermarché lillois. Alors ça n'est pas encore le rush, mais quand même une petite ruée.
Oui, effectivement, le parking de l'hypermarché Cora est bien rempli. Nathalie vient de faire ses courses, son caddie déborde.
Voilà, des packs d'eau, du jus d'orange, du papier toilette, des pâtes, beaucoup de pâtes parce que je me suis dit il faut que je me dépêche, hein, il va encore avoir plus rien dans les magasins. On se dit s'il y a encore un confinement, on va être bloqué, on va pas pouvoir bouger. Donc oui, on se prépare maintenant, on commence à avoir l'habitude, on va dire.
Stocker des produits de première nécessité, faire le plein, c'est incompréhensible pour Sofiane et Isabelle, deux habitués.
Les gens, ils s'affolent tout de suite, on n'est pas en guerre, hein. C'est juste un confinement et je suppose qu'il y aura des heures de sortie.
On est en train de revivre en fait les premiers instants du confinement il y a 6 mois. C'est-à-dire la panique générale. Les gens paniquent et ils ne font pas attention à la DLC et ils vont remettre toutes ces courses-là à la poubelle dans 3 mois. Quoi. Et c'est ça qui est triste. C'est des moutons.
Et certains, en plus d'acheter de la nourriture, repartent avec quelques livres, DVD, jeux vidéo pour s'occuper. Des cartouches d'encre également afin d'imprimer les attestations de sortie.
Maximilien Carlier dans les supermarchés lillois.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h09, la suite de votre journal avec le reste de l'actualité. On parle de ces cigarettes électroniques sur le grill, Isabelle.
Oui, jusqu'à présent, c'était un petit peu difficile d'y voir clair. Hein. Assez peu d'enquêtes ont été réalisées sur les ingrédients qui les composent. Alors, il y a ceux qui disent qu'elles sont nocives, d'autres qui disent qu'elles sont finalement préférables aux cigarettes.
Eh bien, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a décidé de passer en revue la composition des 33 000 produits, rendez-vous compte, de vapotage en vente sur le marché français.
Et Virginie Salmen, eh bien, certains d'entre eux sont potentiellement dangereux.
Sur les 33 000 sortes de liquides en vente, ça va de l'arôme fraise pêche au tabac blond, un peu plus d'un millier contiennent des ingrédients interdits, donc des substances cancérogènes ou susceptibles de favoriser des mutations génétiques ou encore toxiques pour la fertilité ou le développement du fœtus. Des ingrédients qui pourtant figurent sur l'étiquette mais qui ne devraient pas être commercialisés. Ça représente environ 4% des liquides en vente. Alors la nouveauté, c'est aussi que vous pouvez aller voir sur le site de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, si la marque du produit que vous utilisez y figure. Il y a des tableaux Excel avec tous les produits. Et si le vôtre contient un de ces ingrédients, vous pourrez décider de changer de marque en connaissance de cause. Il y a encore des zones d'ombre puisque 4 vapoteurs sur 10 composent eux-mêmes leur mélange. Ils font du do-it-yourself et les fabricants des produits qui ne contiennent pas de nicotine n'ont pas l'obligation de déclarer la liste des ingrédients. La prochaine étape, ce sera l'étude sur la toxicité de chacune de ces substances.
Merci Virginie Salmen. L'actualité sociale avec une nouvelle victime de la crise, l'enseigne de prêt-à-porter Célio qui veut fermer 102 magasins avec à la clé la suppression de près de 400 postes.
Oui, l'industrie du textile qui souffre, l'industrie aéronautique également.
Boeing annonce la suppression de 7000 emplois supplémentaires d'ici la fin de l'année prochaine. L'avionneur américain fera passer son effectif total de 160 000 à 130 000 salariés en 2 ans. Le constructeur qui est lui aussi donc victime collatérale de cette pandémie, mais aussi des problèmes rencontrés par son A737 MAX, l'appareil qui attend toujours le feu vert des autorités américaines après 2 accidents qui l'ont cloué au sol.
Les États-Unis, justement, on y reste avec la présidentielle. Ça y est, ça approche, hein, J-6.
Et comme chaque soir sur Europe 1, on retrouve Xavier Yvon pour son journal de campagne.
I'm Joe Biden.
I'm Donald Trump.
And I approve this message.
And I approve this message.
Europe 1 live for the American elections.
Bonsoir Xavier.
Hello, bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui encore, les candidats et leurs alliés écument les états clés, mais il n'y a pas que sur le terrain que l'élection se joue.
Et oui, la campagne fait rage aussi sur Internet et surtout sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les patrons de Facebook, Google et Twitter ont répondu aujourd'hui aux questions d'une commission du Sénat. Les républicains et les démocrates sont, pour une fois, d'accord. Ils considèrent que les géants du net ont trop de pouvoir dans la diffusion d'informations et pas assez de contrôle. À droite, on est furieux, notamment que Twitter signale les tweets mensongers de Donald Trump. Et à gauche, on reproche aux réseaux sociaux de favoriser la manipulation de l'opinion. Pour limiter son influence, Facebook n'accepte plus depuis hier les nouvelles publicités de campagne et s'est engagé, tout comme Google, à ne plus du tout diffuser de spots politiques après la fermeture des bureaux de vote mardi pour éviter toute désinformation en attendant le résultat de l'élection. Il faut bien se rendre compte que plus de la moitié des adultes américains s'informent via Facebook et que tous les jours, les 10 pages les plus visitées sont celles de sites conservateurs, voire ultra-conservateurs.
Tiens, tiens, à propos de publicité justement politique, on passe à la vidéo du jour, Xavier.
Oui, alors celle postée sur Twitter, tiens, par Donald Trump. L'écran est séparé en deux. En haut, on voit un meeting Trump avec l'arrivée du président en hélicoptère au-dessus d'une foule compacte et hystérique. Et en bas de l'écran, on voit Joe Biden lui arriver devant une poignée de supporters séparés par des cercles dessinés au sol, donc distanciation sociale. Le contraste est saisissant, alors oui, sur l'enthousiasme, mais aussi sur la gestion de la pandémie. Chez Trump, c'est comme si elle n'existait pas. Chez Biden, on montre qu'on prend le virus au sérieux. Pas sûr au final que ce montage vidéo soit un très bon argument pour le président sortant.
Deux ambiances en effet, et puis on termine, Xavier, avec des idées d'activités autour de cette élection américaine.
Et oui, puisque vous allez passer un peu plus de temps chez vous ces prochaines semaines, alors voici deux idées pour vous occuper. D'abord, vous pouvez vous brancher sur la webcam du comté de Washoe, c'est dans le Nevada. Elle diffuse en direct le décompte des bulletins de vote envoyés par la poste. Alors bon, ok, ça consiste à regarder des gens assis à des tables en train d'ouvrir des enveloppes, mais c'est par souci de transparence face aux accusations de triche répétées de manière infondée par le camp Trump. J'ai regardé, c'est très calme, c'est vrai, mais c'est un peu comme les vidéos de nature, ça détend. Et puis il y a une autre activité, un quiz proposé par le New York Times. On vous montre des photos de l'intérieur d'un frigidaire et vous devez deviner en fonction du contenu si son propriétaire vote Biden ou Trump. J'ai essayé, c'est pas évident.
Merci pour ces idées en tout cas Xavier. Pour ceux qui sont intéressés, pourquoi pas, hein, les liens sont à retrouver sur votre compte Twitter @XavierYvon et bien sûr aussi sur Europe1.fr.
Bien sûr, le journal de campagne de Xavier Yvon, c'est tous les soirs dans le JT de 19h sur Europe.
Notre langue est notre trésor, disait-il. Nous devons en transmettre la richesse à nos enfants. Alain Rey, le maître des mots, s'est éteint aujourd'hui à 92 ans.
Oui, amoureux des mots et de la langue française, il était l'une des figures du dictionnaire Le Robert, Nicolas Carreau.
Et oui, en 1952, Alain Rey rencontre Paul Robert. Ensemble, ils publieront ce nouveau dictionnaire que tout le monde connaît aujourd'hui, le petit Robert, le grand Robert, etc. Alain Rey était un puits de science lexicale et un moderne. Pour lui, la langue était un être vivant, capable d'évoluer avec la société.
À partir du moment où on s'aperçoit que la langue bouge, et c'est inévitable, et c'est toujours le cas, et ça a toujours été le cas, eh bien, on est bien obligé d'admettre que certaines des fautes qui sont commises aujourd'hui vont devenir plus tard des règles. C'est finalement la majorité qui a raison, toujours en matière de langue. La langue est le plus démocratique des moyens d'expression.
Les hommages se multiplient aujourd'hui, tous saluent sa gentillesse qu'il portait, c'est vrai, dans son regard bienveillant et sa bonhomie sous ses faux airs de mousquetaire, avec sa moustache, sa barbichette et ses longs cheveux blancs. Le comédien Stéphane de Groot, co-auteur d'un livre avec Alain Rey, se souvient de leur rencontre.
J'avais l'impression de rencontrer un monument. J'étais très ému parce que, comme je suis très attaché aux mots et à cette langue qui est C'est un vrai trésor. J'avais en face de moi un chercheur d'or.
Les mots préférés d'Alain Rey n'étaient pas les plus compliqués ou les plus alambiqués. J'aime, disait-il, les mots qui n'ont l'air de rien, mais qui sont aussi difficiles à définir que bonheur ou liberté.
Merci Nicolas Caro, spécialiste littérature d'Europe 1. Et puis je vous donne des nouvelles. Julien du PSG qui affronte en ce moment à Istanbul le club du Bachar Şehir, match de Ligue des Champions. Ça fait 19 minutes qu'on joue.
Comment vous dites ?
Şehir.
Şehir, d'accord.
19 minutes de jeu, 0-0. Et un peu plus tard, à 21h, Rennes se déplacera à Séville également dans le cadre de cette Ligue des Champions.
Bien, merci Isabelle. On vous retrouve demain évidemment à partir de 18h. Un point sur le temps avec vous Anissa. Moins de pluie demain, mais prudence ce soir dans le Nord.
Oui, parce que nous avons toujours cette vigilance orange sur le Pas-de-Calais, placée en vigilance orange pour forte pluie. Je vous rappelle que le vent souffle aussi sur les côtes de la Manche, les côtes de la mer du Nord, prudent jusqu'à 100 km/h. Demain, le ciel reste gris sur la moitié nord avec, allez, à la frontière, sur les frontières de l'Est, quelques légères averses. Mais alors, sinon, la plus belle journée sera sur la moitié sud où le soleil brille dès le début de journée. Dans l'après-midi, le soleil arrive sur la façade atlantique. 12 à 21 degrés au meilleur de la journée. 12 à 16 sur la moitié nord, il fait un peu plus frais. 16 à Paris et 17 à 21 degrés sous le soleil dans le sud.
Quelle chance. Merci Anissa.
À demain.
On vous retrouve demain, évidemment.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h20, la suite de notre édition spéciale. On est ensemble évidemment jusqu'à 21h et on va suivre bien sûr ensemble à 20h l'allocution du président de la République, très attendue par tous les Français, par les entrepreneurs, par les salariés, par la France entière, avec cette perspective d'un nouveau confinement généralisé, avec, c'est vrai, des modalités plus souples, nous dit-on. Les collèges, les lycées, les écoles pourraient rester ouvert pour certains. On attend donc cette allocution à partir de 20h et on en parle ce soir avec nos invités. Bruno Mégarban, bonsoir, vous êtes professeur de médecine, chef de service en réanimation à l'hôpital Lariboisière. On en parle également avec Patrick Martin, bonsoir, vous êtes président délégué du MEDEF, avec Francis Palombi qui nous rejoindra dans quelques secondes, président de la Confédération des commerçants de France, et on en parle également avec Louis de Ragnel, le chef adjoint du service politique. Patrick Martin, première question à vous. Il y a quelques jours, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, avait dit « En cas de reconfinement, il y a un risque d'effondrement de notre économie ». Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir ?
Écoutez, un état d'esprit de dépit et progressivement de colère de la part de nos adhérents. Tout le monde est parfaitement conscient de la gravité de la situation sanitaire et de la nécessité absolue d'y remédier. En attendant, chacun en convient, la ministre du Travail elle-même l'a dit publiquement, les entreprises ne sont pas un lieu de contamination. Pourquoi ? Parce que les mesures barrières, le port des masques sont respectés par les entrepreneurs, par les salariés. Et on ne comprend pas pourquoi, dans le cadre d'un deuxième confinement, peu importe comment on l'appelle, les entreprises seraient de nouveau victimes, en définitive, de ces mesures, alors qu'elles ne sont pas coupables, si je peux m'exprimer ainsi, avec des disparitions massives d'entreprises, des disparitions massives d'emplois, au même moment où les caisses de l'État sont vides et où donc les dispositifs de soutien aux entreprises et aux salariés vont nécessairement se réduire.
Quelques questions précises et puis après on passera à nos autres invités. Christian Saint-Etienne, économiste, qui sera d'ailleurs avec nous tout à l'heure à partir de 20h30, dit « un mois de confinement, c'est au bas mot 500 000 emplois en moins ». Vous êtes d'accord avec ça ?
Absolument d'accord.
Absolument d'accord.
Et puis il y a une dimension psychologique. Si vous voulez, un chef d'entreprise, d'une grande ou d'une petite entreprise, il n'est pas devenu chef d'entreprise par hasard. C'est quelqu'un qui a envie de construire. C'est souvent quelqu'un qui joue son patrimoine. Et à nouveau, se dire qu'il va être la victime injuste de décisions sanitaires nécessaires mais inappropriées, ça le met dans un état de nerf pas possible, si vous me permettez l'expression.
On comprend votre mécontentement ce soir. Patrick Martin, est-ce que vous avez eu des assurances de la part de l'exécutif, des ministres avec qui vous êtes en lien permanent, on l'imagine, notamment à Bercy, de la capacité du monde économique à poursuivre l'activité si confinement il y a?
Non, le problème, de mon point de vue, n'est pas celui-là. Il y a eu un premier confinement. Il y a un deuxième confinement. Ce confinement ne va pas éradiquer la pandémie. Je parle avec beaucoup de modestie devant vous, monsieur le professeur. Et donc, il y aura nécessairement derrière un déconfinement, puis un troisième confinement, sachant que de toute façon, je parle toujours sous votre contrôle, dans le meilleur des cas, il y aura des vaccins en quantité suffisante au deuxième semestre 2021. L'économie française sera morte et définitivement morte.
Mais morte, ça veut dire quoi, Patrick Martin ?
Ça veut dire que on ne peut pas mettre les entreprises et les salariés sous perfusion d'argent public en permanence. L'État est totalement impécunieux, la dette publique a explosé, les déficits publics, sociaux et ceux des collectivités cette année vont augmenter d'au moins 75 milliards d'euros. Ça n'est pas la bonne solution. Il faut s'habituer à vivre dans le maximum de conditions de sécurité sanitaire avec ce virus jusqu'au jour où le vaccin sera disponible.
Et visiblement, ce n'est pas le choix que s'apprête à prendre ce soir le président de la République. Professeur Megarban, d'abord, est-ce que vous confirmez le scénario qui vient d'être évoqué par Patrick Martin? Il y aura forcément un déconfinement avec des contraintes et il y aura forcément un troisième confinement?
Alors, non, je n'ai pas ma boule de cristal. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que
le virus... Parce que c'est la stratégie du stop and go dont on parle là.
Le virus, en fait, depuis son arrivée en Europe, circule et ne va pas s'arrêter de circuler tant qu'il n'y a pas une immunité collective suffisante. Donc, effectivement, le premier confinement a permis de casser la courbe des contaminations et on a connu une baisse. Il était tellement long de 2 mois qu'il a quasiment anéanti la circulation et on a connu effectivement des mois de juin, juillet relativement tranquilles et puis c'est remonté progressivement à un niveau maintenant relativement élevé de circulation avec ce fameux deuxième rebond.
Oui.
Donc effectivement maintenant si nous envisageons un confinement un peu plus souple, de moindre durée et qu'à la sortie de ce confinement on se relâche, il est attendu mais de façon mathématique une réaugmentation des contaminations. Donc il ne faut pas penser en fait que ce confinement que l'on va probablement subir est là uniquement pour nous permettre de passer un Noël exactement comme les Noëls habituels. Sinon, on n'a rien gagné. C'est-à-dire qu'en janvier, dès la fin de Noël, des fêtes, nous sommes en confinement.
Quand le président de la République et l'exécutif dit dans les entourages des uns et des autres, on verra ce qu'annonce encore une fois dans 30 minutes maintenant le chef de l'État, ce sera 4 semaines minimum. On entend évidemment que c'est 4 semaines renouvelables. J'ai posé la question tout à l'heure à l'épidémiologiste qui était mon invité à 18h20. Elle disait, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais 4 semaines, ce ne sera pas suffisant.
Oui, tout à fait, on va dire. Le confinement, on sait que c'est actif. C'est efficace pour casser les chaînes de contamination. Mais il y a, on va dire, 3 paramètres très importants pour en déterminer l'efficacité. Premièrement, la précocité de sa mise en route. Donc là, on peut estimer que ça vient au bon moment. Deuxièmement...
Pas trop tard ? Beaucoup disent ça vient trop tard.
Oui, on l'aurait fait plus tôt, je crois que personne n'aurait accepté. Donc
vous vous souvenez, Esther Duflo ?
Tout à fait.
Dont tout le monde s'était un peu moqué, prix Nobel de l'économie, de son bien État, sûr, française, ouais, qui avait dit « confinons 15 jours à la Toussaint et on sera tranquille pour la Noël ».
On l'aurait fait plus tôt, effectivement. On aurait peut-être évité la situation actuelle, mais je ne suis pas certain qu'on aurait été tranquille pour Noël. Voilà. Alors donc effectivement, il y a la précocité de sa mise en place. Il y a ensuite sa dureté, c'est-à-dire effectivement pour plus on interdit les rassemblements, les déplacements de population, le travail sur site, etc. Et plus c'est efficace, puisque évidemment le virus se diffuse uniquement parce que les personnes se rassemblent et se transportent. Et puis troisièmement, c'est sa durée. Donc il y a ces 3 paramètres. Et effectivement, donc, un confinement trop court permettrait de casser légèrement la courbe, mais avec une réascension très importante. Et c'est ce qu'on a connu, par exemple,
aux États-Unis. On peut se dire les choses maintenant, on est dans une situation critique. Donc 4 semaines, ce ne serait pas suffisant. Quel est le bon délai?
Alors, à nouveau, je ne suis malheureusement pas épidémiologiste, donc je ne sais pas. Et on ne peut en déterminer les conséquences que par des modélisations extrêmement complexes. Donc, il faut avoir un ordinateur avec des tas de paramètres dont je n'ai pas connaissance pour pouvoir le déterminer. Mais effectivement, on pourrait parfaitement le prédire.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, la suite de notre édition spéciale. On est ensemble donc jusqu'à 21h et on va suivre dans moins de 30 minutes maintenant l'allocution du président de la République avec cette perspective d'un nouveau confinement généralisé. On est toujours ici en studio avec nos invités. Louis de Ragnel est avec nous, notamment chef adjoint du service politique d'Europe 1. Louis, vous avez la coulisse de ces derniers arbitrages et vous avez aussi la coulisse de l'état d'esprit du président à maintenant 29 minutes de sa prise de parole.
Oui, alors ce que je peux vous dire déjà sur les derniers arbitrages, c'est que ça a été très compliqué puisqu'en fait, beaucoup de services de l'État ont fait remonter en fait, des demandes sectorielles et donc en fait, le gouvernement s'est retrouvé en fait, à rendre des arbitrages avec plus de 500-600 demandes de dérogation avec les fleuristes, les réparateurs de vélos, les fleuristes à l'occasion par exemple du 11 novembre. La question s'est posée cet après-midi en cellule interministérielle de crise, place Beauvau, pour savoir si les fleuristes justement pouvaient exceptionnellement ouvrir pour fleurir les tombes des soldats morts pour la France. Et ce que je peux vous dire également sur Emmanuel Macron, c'est que plusieurs personnes qui l'ont vu ces dernières heures m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu le président dans un état pareil. C'est-à-dire qu'il est vraiment très très marqué par la situation qu'on est en train de vivre, à la fois parce qu'on vient de vivre une période de forte tension avec la Turquie, et puis évidemment cette crise sanitaire à laquelle il doit apporter des réponses.
Et c'est lui et lui seul qui a pris cette décision de reconfiner, si ça se confirme, oui. La France, oui, j'allais dire une partie de la France, en tout cas les Français avec quelques exceptions, on verra tout cela à 20h, mais pendant 4 semaines, c'est lui ?
Oui, alors c'est lui entouré toujours un peu de son entourage très très proche. Il a pris cette décision dimanche soir dernier, donc bien avant les consultations et avant la tenue des deux conseils de défense qui étaient censés justement permettre ce débat et la décision finale. Et ce que je peux vous dire enfin, c'est aussi ce que m'a dit un conseiller du président qui l'a vu ces dernières heures. Il m'a dit ça, il est totalement conscient que sa décision va impacter durablement la France et l'avenir de la France pour les 20 prochaines années. Donc c'est des décisions difficiles. Et enfin, ce que je peux vous terminer par dire, c'est le président va insister sur la nécessité de poursuivre le travail autant que possible. Alors je pense que ça va vous faire réagir.
Patrick Martin, oui.
Dans la mesure du possible, puisque le télétravail va être fortement encouragé. Et puis on se rend compte qu'il y a plein de situations dans lesquelles c'est extrêmement compliqué de dire si telle ou telle personne doit télétravailler ou alors si elle doit cesser son activité.
Alors Patrick Martin réagit dans quelques secondes, président délégué du MEDEF. D'ailleurs, j'en profite pour accueillir Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Bonjour. Bienvenue. Merci monsieur. Je me permets de vous donner la parole. D'abord, votre état d'esprit maintenant à quelques minutes de la prise de parole du chef de l'État.
Ben écoutez, un état d'esprit qui se veut encore d'espérer que les magasins ne vont pas être obligés de fermer comme lors du premier confinement. J'étais à une réunion à Bercy qui a été organisée par...
Aujourd'hui
tout à l'heure, là, de 17h à 18h, oui, 18h30, peu importe. Et là, Bruno Le Maire nous a tous interrogés par branche, par fédération, par confédération. Il y avait 5 ministres. Il nous a tous demandé ce que l'on voulait exprimer. Bon, colonne vertébrale commune, surtout pas la fermeture des magasins, ce serait une catastrophe sans nom, parce que, en plus, ça va créer une distorsion avec le commerce numérique, le grand commerce numérique, et ça, c'est très, très grave.
Oui.
Parce que comment lutter contre Amazon, qui est déjà en train de faire des promotions fantastiques? Payer sans frais 4 fois vos jouets, vous n'en aurez plus en fin d'année. Le Black Friday d'Amazon qui représente plusieurs semaines de promotions fracassantes. Si en plus des magasins de jouets, pour qui c'est 60% du chiffre de l'année en fin d'année, les maroquiniers, 40% du chiffre de l'année, les libraires, parce que le livre est quelque chose de précieux en termes de cadeaux, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe sans nom.
Dans quel état
si les marchés ferment également.
Dans quel état d'esprit sont les enseignes et les commerçants avec qui vous avez pu échanger?
Une peur panique. Quoi,
une peur panique.
Ça, vraiment, les gens sont... Ils nous appellent. Ils ne sont même pas critiques. Ils disent, mais nous, on veut travailler. Nous, s'il y a des mesures plus restrictives, on les appliquera. Moi, je dis, depuis le départ, début du premier déconfinement, j'étais pour le masque obligatoire dans les magasins. Obligatoirement. Bon, peu importe, on ne va pas refaire le passé, on est sur le présent et sur l'avenir. Donc, nous pensons que
on ne peut pas nous faire ça, on ne peut pas s'arrêter de vivre. Ou on vit avec le Covid, ou on s'arrête de vivre. Oui. Je pense qu'autour de cette table, vous êtes tous unanimes. On veut vivre.
Il y a vraiment un risque,
et on veut continuer à vivre.
M. Palombi, il y a vraiment un risque d'effondrement du commerce physique, d'effondrement du commerce de proximité dans les centres-villes.
Et évidemment, et par rapport, ce n'est pas une sorte de blocage, une sorte d'acharnement vers Amazon ou Alibaba ou autre, mais c'est que le commerce numérique, dans une telle période, alors j'ai même demandé à charge que nous soyons écoutés, si l'État, très momentanément, très provisoirement, pouvait demander à ces grands purs players de ne pas faire de promotions agressives, de faire leur job, mais sans en rajouter avec des promotions agressives, parce que ça va encore attenter au fonctionnement du commerce physique et créer un grand déséquilibre.
Alors Patrick Martin, président délégué du MEDEF, peut-être un mot de réaction aux informations de Louis de Raguenel sur le télétravail. Est-ce que c'est possible, encore une fois, de faire fonctionner à minima l'économie, les entreprises et de limiter la casse, j'allais dire, si demain, les salariés passent en tout télétravail?
Alors, je vais vous répondre, mais je voudrais rebondir sur un de vos propos selon lequel le président de la République a pris sa décision dimanche soir, ce que je crois volontiers. Nous étions hier soir tous les partenaires sociaux autour de Jean Castex, jusque tard dans la nuit, donc les organisations syndicales, les organisations patronales. Je peux vous dire, le MEDEF n'a pas à faire le porte-parole des syndicats de salariés, que nous étions unanimes pour alerter le Premier ministre et tous les ministres qui l'entouraient sur les risques économiques, sociaux, mais également psychologiques, sanitaires d'une certaine manière et au final politiques, qu'une décision radicale occasionnerait. Nous avons été écoutés, si je comprends bien, manifestement nous n'avons pas été entendus, a fortiori si la décision était déjà prise par le président de la République. C'est une forme de concertation un petit peu frustrante.
Ça laissera des traces ?
Enfin, ce n'est pas ça l'essentiel. Ce sont les traces que ça va laisser auprès des 330 000 entreprises qui vont être mises à l'arrêt. Leurs salariés, leurs dirigeants, les quartiers qui vont être brutalement affectés et durablement affectés par cette décision. Quant au télétravail, nous-mêmes, nous avons fait des propositions. Il est évident que dans le contexte sanitaire grave, j'insiste, que nous connaissons, nous sommes favorables au télétravail, a fortiori dans les zones métropolitaines où les salariés emploient massivement les transports en commun, ce qui n'est pas du tout le cas dans les petites villes de province. Moi-même, je suis de Bourg-en-Bresse, inutile de vous dire que les salariés de mon entreprise, pour beaucoup d'entre eux, rentrent en voiture, déjeuner chez eux et reviennent en début d'après-midi.
Bien.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h39, la pression monte, la suite de notre édition spéciale. On est ensemble donc jusqu'à 21h et on va suivre bien sûr à 20h l'allocution en direct du président de la République avec cette perspective d'un nouveau confinement généralisé. On continue d'en parler avec nos invités et notamment le professeur de médecine Bruno Mégarban, chef de service en réanimation à l'hôpital Lariboisière. Professeur, est-ce que, pour parler clair, vous avez entendu l'inquiétude des invités ce soir, des petits commerçants, du représentant du MEDEF et des entreprises et de toute l'économie française dans son ensemble, est-ce que ce confinement, il était vraiment inévitable d'un point de vue sanitaire ?
C'est difficile de répondre, évidemment. Je n'ai pas les compétences pour le dire. Tout ce que l'on peut dire, c'est effectivement, on observe, et ça, tout le monde est d'accord, une augmentation désormais exponentielle du nombre de contaminations et du nombre d'admissions à l'hôpital. On connaît que, malheureusement, l'hôpital a des moyens très limités en termes de lits et en termes de personnel. L'hiver est devant nous. Or, déjà, quasiment tous les lits sont occupés par des patients plus ou moins Covid. Et donc, effectivement, on craint le pire si jamais on n'avait pas une marge de manœuvre. Donc, ce qui est décidé actuellement, c'est une anticipation pour éviter les problèmes.
C'était impossible, depuis la fin du déconfinement, le 14 ou le 16 mai dernier, si mes souvenirs sont bons. Le 11 mai, si mes souvenirs sont bons. Enfin, la mi-mai, c'était impossible de configurer les services de réanimation et l'hôpital pour qu'on soit en capacité d'absorber aujourd'hui ces patients. Vous vous souvenez que le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait promis 12 000 lits de réanimation. On est aujourd'hui toujours à 5 800.
Voilà, 5 800. Alors, je dirais, c'était possible de faire un petit effort et d'accroître le nombre de lits, mais évidemment, impossible de réparer 20 ans de négligence et 20 ans d'erreurs stratégiques. En fait, on a réduit progressivement le nombre de lits à l'hôpital, le nombre de médecins, en pensant qu'en réduisant les moyens de l'hôpital, on va pouvoir réduire les dépenses de santé et en gérant l'hôpital comme une entreprise qui se devait d'être rentable à la fin de l'année.
Oui.
Or, en fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut penser. Il faut accepter que l'hôpital public soit déficitaire parce qu'il est là pour protéger la population en cas de coup dur.
Sur ces 8 mois passés, rétrospectivement, il n'y avait pas moyen d'éviter la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
Parce qu'effectivement, on pouvait créer géographiquement des services avec des lits. Mettre des ventilateurs, ça oui, mais encore fallait-il mettre le personnel qui puisse suivre les patients. Or, malheureusement, pour former un infirmier spécialiste, il faut au moins un an de plus, voire deux ans d'exercice au-delà des années des trois ans de formation d'infirmier. Et pour un médecin, il faut 15 ans, donc 5 ans de spécialisation en réanimation pour pouvoir être habilité à traiter un patient en réanimation. Donc,
bien.
Ça ne peut pas se créer
en quelques mois.
C'est impossible.
Le chef cuisinier Yves Candebordes est avec nous par téléphone. Bonsoir, monsieur Candebordes. Votre réaction, tout simplement, on a entendu évidemment ici en plateau depuis plusieurs heures, plusieurs jours même, j'allais dire, la grande inquiétude des métiers du tourisme, des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, des cafetiers et de tous les commerçants dans leur ensemble. Quel est votre état d'esprit à vous ?
Mon état d'esprit, c'est d'abord la santé des Français, j'ai envie de vous dire. Même si nous, c'est une catastrophe, je pense qu'il faut prendre des décisions importantes pour privilégier la santé des Français. Et après, maintenant, il va falloir vite commencer à réfléchir à l'après, quoi. Parce qu'on est dans une situation déjà depuis pratiquement 6 mois très compliquée. L'État fait beaucoup d'efforts, essaie de trouver des solutions, parce qu'on a des vrais problèmes d'entrée de finances par rapport aux charges qui sortent. On ne s'en sort plus du tout. Donc, on va dire en premier lieu, gérons cette situation sanitaire et après, essayons de faire une table ronde pour trouver une solution adaptée aux uns et aux autres. Quoi.
Combien de temps
qu'on est, voilà, je vais vous dire la vérité, c'est pas nous les plus importants aujourd'hui. Sauvons les vies.
Quoi. Oui, mais vous avez tout de même des employés, j'imagine, des salariés, des fournisseurs, tout cela. C'est une chaîne aussi
C'est une chaîne qui aujourd'hui est plus que fascinante. Voilà, les employés, moi j'ai 90 employés, mais je vais en mettre 90 au chômage. J'ai tous mes fournisseurs qui ont des produits. On a un peu de produits à Saint-Jacques, parce qu'aux pêcheurs bretons, qu'est-ce qu'on va faire dans Saint-Jacques, on ne peut rien en faire. C'est tout un château de cartes qui est en train de s'effondrer, quoi. Ça va être un drame financier, mais j'ai envie de dire l'argent. Bon, l'argent, ça reste de l'argent. Mais ça va être surtout un drame humain des gens qui ont mis leur carrière, qui mettent leur carrière en jeu, qui mettent leur vie en jeu par rapport à ces métiers qui sont des métiers de passion, et la passion amène ses excès, et on a très peur de voir des drames gravissimes dans ces métiers qui vont aujourd'hui souffrir de cette pandémie.
Merci monsieur Candebordes de nous avoir accordé quelques instants par téléphone. On est maintenant à un quart d'heure de l'allocution du président de la République, Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. En quelques mots, si vous aviez le président de la République en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez ? Quel type d'aide vous pouvez maintenant lui demander dans la perspective, encore une fois, de ce reconfinement ?
Bon, si à partir du moment où il aura pris sa décision de confiner totalement, je ne peux que passer au registre du soutien.
Oui.
Mais pas un soutien peut-être, pas peut-être, certainement plus fort que la première fois, parce que la première fois a beaucoup affecté les entreprises, et c'est pas mon collègue du MEDEF qui me contredira. Et là, on a des petites entreprises, des entreprises même pas que des petites, le monde de l'entreprise c'est un ensemble. Eh bien, les petites entreprises sont très affectées. Depuis début septembre, le prêt de solidarité n'est plus attribué, puisqu'on était censé avoir repris, même si les chiffres ne sont pas au rendez-vous habituel, mais on a quand même repris. Et là, on nous dit on arrête tout.
On évoque des crédits d'impôt pour les bailleurs, notamment pour les restaurateurs, pour régler la problématique du loyer. Là, ça, vous le réclamez aussi pour
les
commerçants.
Les mesures qui vous parlez des loyers, je vous confirme, on l'a dit tout à l'heure à Bercy, il faut que les bailleurs, bien sûr, trouvent un certain avantage fiscal. Et on ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul totalement, sinon il y a un déséquilibre, ça, c'est pas normal. Mais là, il faut que le problème des loyers soit pris en compte. Il faut que le fonds de solidarité soit élargi et attribué davantage. Et puis, il faut, nous, on demande depuis ces derniers jours d'intégrer, par exemple, l'artisanat des robes de mariée. C'est une catastrophe. J'ai visité la semaine dernière, et les antiquaires, et puis d'autres.
Oui, bien.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h49, la suite de notre édition spéciale. On est maintenant à 10 minutes de la prise de parole du chef de l'État. On est ensemble sur Europe Soir jusqu'à 21h pour donner la parole aussi aux professions qui sont concernées par ce reconfinement, s'il est confirmé dans quelques instants, avec des modalités, nous dit-on, plus souples. On en parle ce soir avec nos invités, notamment Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Patrick Martin, on dit, On dit que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui connaît les enjeux de l'économie française, évidemment, s'est battu comme un lion jusqu'à la dernière minute pour essayer d'obtenir un assouplissement de la part du président de la République. Est-ce que c'est vrai ?
Je le confirme tout à fait. Bruno Le Maire, les ministres qu'il a autour de lui sont parfaitement conscients de la situation et vraiment, on doit les entreprises hein, doivent leur rendre hommage, même si au final, à cet instant en tout cas, ils n'ont pas eu gain de cause. Il faut dire également qu'Elisabeth Borne, hein, au titre du ministère du Travail, a été, je dirais, sur cette ligne-là. On sent qu'effectivement, il y a deux écoles au sein du gouvernement. Ce n'est pas forcément la bonne, à nos yeux, qui l'a emporté.
Sur le niveau des aides, Patrick Martin, et j'en finirai par là, si reconfinement il y a, il va falloir l'accepter, il va falloir que les entreprises s'y plient. Qu'est-ce que vous demandez comme aide supplémentaire par rapport à ce qui a déjà été fait? 450 milliards ont déjà été débloqués avec les prêts garantis par l'État, le chômage partiel évidemment. Qu'est-ce que vous demandez de supplémentaire?
Alors les 460 milliards n'ont pas été consommés, hein, notamment le PGE. Il y a un gros tiers.
C'est l'enveloppe qui a été débloquée par le gouvernement.
Oui, un gros tiers des 300 milliards prévus pour le PGE qui ont été consommés. Écoutez, on va demander des mesures de soutien, mais c'est contre nature. Enfin, un chef d'entreprise n'est pas là pour demander des aides. Un chef d'entreprise est là pour développer sa boîte, pour investir, pour créer des emplois. Je ne sais même pas quoi vous répondre. Mais je voudrais juste revenir sur cette situation qui n'a rien d'anecdotique. Quand vous avez trois syndicats de chez PSA, qui est une entreprise remarquable, mais assez syndiquée, qui demandent que les concessions automobiles puissent continuer à fonctionner, faute de quoi les usines elles-mêmes vont fermer. Ils savent très bien, les syndicats, qu'il y aura des destructions d'emplois. Je crois que tout est dit, c'est la vraie vie.
C'est la question que j'allais vous poser. On pourra continuer à produire avec ce confinement dans des conditions à peu près acceptables?
Écoutez, si...
Parce qu'on sait que l'économie, c'est une chaîne. Si on coupe de la demande, on coupe le robinet de la production.
Je vous rapporte juste une anecdote, parce que ça aussi, c'est la vraie vie. Lors du premier confinement, le gouvernement a insisté pour que le bâtiment et les travaux publics se remettent au travail. C'est l'activité qui s'était la plus mise à l'arrêt.
Oui.
À part qu'il y a un arrêté qui interdisait la vente de matériaux aux professionnels, alors qu'il l'autorisait aux particuliers. La vente de matériaux aux particuliers, c'est 5% du marché. Alors si vous voulez, on va rentrer de nouveau dans des constructions technocratiques avec l'impossibilité de faire bouger les lignes. Un mois après la publication de cet arrêté, il n'avait toujours pas été modifié pour permettre l'approvisionnement des entreprises du bâtiment. Moi, je m'attends à des complexités, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est que l'existence même des entreprises est mise en cause.
Bien, merci Patrick Martin de nous avoir accompagnés. On vous libère, président délégué du MEDEF. Vous allez suivre évidemment, comme nous, ces annonces du chef de l'État. On est en direct sur Europe 1. Louis de Ragnel, peut-être les toutes dernières informations. On est maintenant à 8 minutes de cette prise de parole. Est-ce que des arbitrages ont eu lieu jusqu'aux derniers instants, ou est-ce que le président de la République avait décidé de l'ensemble des mesures, le dispositif, vous nous l'avez dit tout à l'heure, dimanche soir, mais dans le détail des mesures, est-ce que des assouplissements de dernière minute sont encore possibles à l'heure où on se parle?
Alors le président avait effectivement décidé le schéma général, en fait, qui était plutôt le reconfinement et plutôt un reconfinement strict, et c'est ce qu'on lui avait recommandé. D'ailleurs, le Conseil de défense sanitaire lui avait recommandé ça. Ensuite, le problème, c'est que dès qu'on annonce un plan général, il va falloir rentrer à chaque fois. Il faut rentrer dans les cas très particuliers. Et donc, c'est ce qui se passe, en fait, depuis deux jours dans la cellule interministérielle de crise qui est située sous la place Beauvau. Et donc, il y a des réunions qui sont présidées par Alexis Kohler, qui est le secrétaire général de l'Élysée, puis par le directeur de cabinet du Premier ministre. Et donc, toutes les administrations de l'État sont en face de ces deux personnes. Et toutes les administrations font remonter, en fait, surtout des demandes d'exception, des demandes de dérogation. Et donc, à chaque fois, il y a un débat, une discussion. Par exemple, on m'a rapporté sur la question des courses de chevaux dans les hippodromes, sur le sport professionnel, sur le sport amateur, les grandes
tous
surfaces.
Les secteurs d'activité, évidemment.
Les grandes surfaces de moins de 400 mètres carrés, de plus de 400 mètres carrés. Donc, tous les secteurs d'activité, en fait, font remonter, un peu comme vous l'avez fait cet après-midi avec le ministre de l'Économie et des Finances, faut remonter en fait leurs demandes. Et puis, il y a des demandes qui sont parfois assez complexes. Par exemple, les fleuristes qui voulaient absolument pouvoir ouvrir pour la Toussaint, parce que la Toussaint, c'est dimanche. Donc ça, c'est une question complexe. Et la dernière chose aussi, c'est ce qui a été traité et ce qui a été fait cet après-midi, c'est le ministre de l'Intérieur qui a reçu les responsables des religions pour leur expliquer aussi que, eh bien, a priori, les offices ne seront plus permis à partir de dimanche prochain, mais manifestement, les églises, les temples, les synagogues et les mosquées resteront ouvert.
Bien, on marque une toute dernière pause, 19h54, et on se retrouve pour l'allocution du président de la République en direct sur Europe 1, tout de suite.
Europe 1.